Piquet.
On parle du port dans cette édition avec cette consultation sur le front de mer de Papeete et on écoutera aussi Pascal Haïti. Et puis en fin de journal, un point sur la consommation d'énergie dans le pays. Justement, cette édition présentée par Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
Direction la place Vailleté pour commencer.
Sur place, on trouvait ce matin le ministre des Grands Travaux René Temeharo, le directeur du port autonome Jean-Paul Lecaille ou encore le directeur général des services de la ville de Papeete, Rémi Briand. Ils ont ensemble lancé un appel à idées des usagers à propos du front de mer. La question, que faire des 13 000 m² qui se trouvent entre le terminal de croisière qui sera achevé début juillet et la gare maritime. La consultation publique est ouverte depuis ce matin sous la forme d'un formulaire accessible depuis la page Facebook du port autonome. Elle va durer 3 semaines, après quoi le port se donne un mois pour élaborer un programme, un cahier des charges et lancer un concours d'architectes. On écoute Jean-Paul Lecaille au micro de Caroline Perdry.
Ce projet s'inscrit dans le schéma directeur quand même du port autonome 2022-2032. L'idée globale, c'est de relier toute la rade de Papeete, de l'ouvrir à la population. On a commencé par Toata, on a fait la promenade. Donc aujourd'hui, il faut lier tout ça de façon que quelqu'un puisse faire le tour de la rade confortablement et à pied.
Les responsables ont tout de même quelques idées. Résoudre le problème d'exposition au soleil de la place Vailleté, prendre en compte les besoins des automobilistes, mais aussi ceux des commerçants. Depuis la suppression du parking pour réaliser les travaux du terminal de croisière, il est très difficile de se garer dans la zone et la fréquentation du quartier du commerce en a souffert. Vous avez 3 semaines pour proposer vos idées et à vos claviers donc, et direction la page Facebook du port autonome de Papeete.
Et puis on reste au port, mais cette fois côté Fareute.
Oui, juste à côté du pont de Motuhuta où le Corsair a coulé en octobre dernier après avoir pourri dans le port pendant plus de 10 ans. Un navire qui refait parler de lui puisque le port autonome s'est enfin exprimé sur les fuites d'hydrocarbures de cette épave. Le 15 mars, une fuite importante avait provoqué l'évacuation du Faretamao voisin. Le responsable environnemental du port, Bran Kinkis, explique que le port autonome a mis en demeure les armateurs présumés de retirer l'épave et de signaler les sources de pollution potentielle. Mise en demeure qui est restée lettre morte. Eugène Degage prétend avoir vendu le navire en 2018, mais il n'y a pas de trace officielle de la transaction. C'est donc au port autonome de se substituer au propriétaire qui devra ensuite régler la facture. Une affaire qui devra sans doute être tranchée par les tribunaux puisque personne n'assume la responsabilité de cette épave et de ce qu'elle contient.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça reste quand même un petit peu obscur parce que l'épave n'est pas du tout stabilisée. On ne peut pas faire entrer des plongeurs à l'intérieur. Donc on a des suppositions, des photos qui montrent qu'il y a peut-être une dizaine de barils à l'intérieur. Et après, il y a le réservoir. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas si le réservoir était vide ou s'il était plein.
Et après la fuite du 15 mars, il reste des petites fuites d'hydrocarbures, admet le port autonome, mais le responsable assure avoir procédé à 3 séries d'analyses qui montrent une qualité des eaux en dessous des normes de rejet. Les barils dont parle Bran Kinkis contiennent de l'huile de vidange usagée, un produit cancérogène reprotoxique qui doit être traité par la TSP avant réexport. Le port autonome se plaint d'être accusé de laxisme alors que les premiers délinquants sont les armateurs, dit le responsable.
Moi je m'étonne beaucoup du fait que le port soit très souvent mise en avant et que très peu de choses est dites en fait sur la conscience environnementale qu'ont les propriétaires qui vivent de la mer. Ce bateau, il semblerait qu'il a servi de débarras un petit peu aussi.
Voilà, c'est passé un peu vite sur la responsabilité juridique du port autonome qui, selon la convention internationale Marpol, dont la Polynésie est signataire, a un devoir de surveillance et de signalement. La position du port est que tant qu'aucun danger imminent n'est mis en évidence, les navires restent des propriétés privées sur lesquelles ils ne peuvent pas intervenir. Mais les travaux sous-marins ne pourront pas commencer avant la fin de l'année. L'épave en coulant est sur le câble optique qui assure la surveillance du port. Il faudra donc vider et découper cette épave de 840 tonnes en 20 morceaux et il faut 5 mois pour assembler le matériel nécessaire à ces travaux. En attendant, il n'est pas exclu que d'autres fuites se produisent.
Nous sommes à 3 jours des territoriales.
Et oui, le premier tour du scrutin, vous le savez, il a lieu dimanche avec des bureaux de vote ouverts jusqu'à 19h dans les îles de la Société et les centres électoraux les plus importants des archipels, 18h partout ailleurs. Vous le savez aussi, les candidats se sont relayés sur notre plateau ces derniers jours. Ce matin, c'était Pascal Haïti du Amui Taira Notenuna Maui qui était l'invité du quart d'heure de campagne. Certes, les Oranges ont perdu beaucoup de leur cadre ces derniers mois. Les élus de 2018 sont tous dans d'autres partis ou retirés de la vie politique. Mais comme la tête de liste Bruno Sandras, Pascal Haïti veut croire à un élan nostalgique des Polynésiens. La nostalgie, bien sûr, des années floss.
L'économie se portait bien malgré tous les grands chantiers qui se développaient. Le coût de la vie était très bas. L'emploi, ils y trouvaient leur place. Chaque Polynésien trouvait facilement du travail à cette époque. Et il se rend compte que finalement, tout ce qu'il a mis en place aujourd'hui, ils en profitent et ils aimeraient retrouver ce dynamisme, ce mets-toi, ce papa qui s'occupait d'eux, qui toujours était à la rescousse du plus petit, surtout des Polynésiens.
Gaston Floss, qui vous le savez, est inéligible du fait d'une condamnation pour abus de confiance et détournement de fonds. Mais qu'importe, le vieux lion à 91 ans vise le poste de vice-président et dit vouloir sauver le pays, le sauver de la mauvaise gestion du Tapura, le sauver aussi et surtout du manque d'emploi en relançant les grands projets. Alors il y a la ferme aquacole de Hao, bien sûr, et le Mahana Beach à Utumaoro. Tant pis pour le village tahitien et les investisseurs locaux, les Oranges veulent revenir à quelque chose de plus grand, plus ambitieux que les 6 hôtels et 1000 clés actuels. Quant à savoir pourquoi ce méga projet hôtelier n'a pas abouti en 2013 ou en 2014, malgré les annonces répétées sur le sujet, Pascal Haïti pointe dans la direction d'Edouard Fritsch.
Gaston Floss a tout préparé. Il a mis un an pour préparer tout ça. Il suffit que M. Fritsch, le président actuel, reprend ce dossier et le fait. Et le fait, mais pour X raisons, n'a pas eu le courage de le prendre. Peut-être que ce projet est trop grand pour lui.
Pascal Haïti, qui a été représentante à l'Assemblée au nom du Tawera de 2001 à 2008, elle parle aussi du programme du parti en matière de lutte contre la pauvreté, avec plus d'aide, moins d'impôts, un départ à la retraite plus tôt. Alors comment financer ces promesses ? Par la hausse de l'emploi et la natalité, répond la compagne de Gaston Floss, qui développe aussi un programme en matière d'éducation, en s'attaquant notamment à l'absentéisme des enseignants.
Ils ne sont pas ici en vacances, hein. Je veux dire, ils viennent pour travailler, pour éduquer correctement nos enfants, ils sont payés pour ça. À l'époque du Tahoe, il n'y a jamais eu ce problème-là. Les professeurs ne sont peut-être pas motivés et pourtant les élèves polynésiens ne sont pas agressifs comme ceux qui sont en France, mais s'il y a trop d'abus, je pense qu'il faut les sanctionner.
Et voilà, toute l'interview de Pascal Haïti pour le Amui Tairao Tenuna Maui est à retrouver sur notre site radio1.pf, un site et une page Facebook. Celle de Radio 1 sur lesquelles vous pouvez vous connecter dimanche soir pour suivre tous les résultats de ce premier tour des territoriales.
Un sacre à Tahiti.
Oui, celui du prince Teri Inoy Atua Joinville Inoy Ariki Pomare 11, que vous connaissez probablement davantage sous le nom de Joinville Pomare, le descendant souvent contesté de la dynastie du même nom, connu pour ses actions militantes dans le domaine du foncier, organise sa propre cérémonie d'investiture. Il n'a probablement pas choisi la date au hasard, ce sera lundi prochain, au lendemain donc du premier tour des territoriales. Plusieurs centaines de personnes ont reçu un carton d'invitation officiel, dont des représentants de l'État, du pays et puis bien sûr des médias. La cérémonie doit avoir lieu dans un lieu plutôt roturier, le Hilton Tahiti, en présence d'un invité de marque tout de même, Tu Heitia Paki, dit aussi Kingi Tuaitua ou encore Werowero 7, un roi reconnu par plusieurs tribus maoris. Joinville Pomare compterait ensuite développer sa principauté depuis Moorea et sur le modèle de Monaco, comme il l'avait confié à la Dépêche. Le prince a même déjà un gouvernement dirigé par un ancien vrai ministre, Gilles Tefatao.
Un chiffre maintenant, 368 millions.
C'est le nombre de litres d'hydrocarbures qui ont été importés aux Fénois en 2021, un des nombreux chiffres du dernier bilan de l'Observatoire polynésien de l'énergie, le bilan 2021, une année où la consommation des Polynésiens est revenue au niveau pré-pandémie et où malgré les efforts menés en faveur de la transition énergétique, le renouvelable ne gagne pas de terrain face aux hydrocarbures, en tout cas dans le mix électrique. Il a même plutôt tendance à reculer. Il faut dire qu'entre 2020 et 2021, la consommation électrique a augmenté alors que la production des barrages hydroélectriques, principale source d'énergie verte dans le pays, a plutôt chuté. L'Observatoire met aussi à jour l'empreinte carbone du Fénois, 9,5 tonnes d'équivalent carbone par habitant. C'est 10% de moins qu'en 2019, mais c'est un peu plus qu'en France métropolitaine.
Et puis on finit par du sport d'entreprise.
Avec la Fédération polynésienne de triathlon qui va fêter à sa manière la fête du travail le 1er mai. C'est la date retenue pour sa traditionnelle épreuve inter-entreprise. Au programme, 5 km de course à pied, 16 km de vélo et 600 mètres de natation, le tout au départ du stade Boris Léontiev de Haroué. Pour participer, il faut faire bien sûr partie de la même société, du même établissement ou de la même administration. Les inscriptions pour ce challenge sont ouvertes jusqu'au 29 avril. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actu, c'est à 16h avec le Flash.
Exactement. Merci beaucoup, Charlie.